Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Suivre la vitesse de propagation et s'il s'avère qu'elle devient incontrôlable. Je pense que le sujet du confinement ne doit pas être tabou.
Faut-il reconfiner Marseille? C'est en tout cas ce que demandent plusieurs élus phocéens, à commencer par la première adjointe Michèle Rubirola. Pas question, lui répond son patron, le maire Benoît Payan. Cacophonie à l'hôtel de ville. Semaine décisive pour le gouvernement. Le nouvel an va-t-il faire flamber l'épidémie? Quid du variant anglais? L'exécutif attend les derniers chiffres pour décider de renforcer ou non les mesures restrictives. Tous anti-Covid ne permettra pas de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, mais vous y trouverez les adresses des centres de vaccination les plus proches de chez vous. Dans ce journal également, les représentants des cultes auditionnés par les députés au sujet du projet de loi sur le séparatisme. Aux États-Unis, les démocrates ont lancé la procédure de destitution de Donald Trump. Et puis on écoutera l'hommage de l'un de nos plus grands navigateurs à Georges Pernoud. Le mythique présentateur de Thalassa nous a quittés à l'âge de 73 ans. Le temps de demain, avec le retour de la pluie, du vent et de la neige sur la moitié nord. Température toujours très fraîche le matin, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,78% à 5 662 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Twitter chute en bourse après la suspension définitive du compte de Donald Trump. Est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien, c'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité, Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Et enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une épidémie dans l'épidémie. Le très virulent variant anglais du Covid est d'ores et déjà présent dans 7 régions françaises, notamment à Marseille, où les marins-pompiers traquent cette mutation dans les égouts de la ville. Et pendant ce temps-là, les élus, eux, s'écharpent sur l'utilité du couvre-feu à 18h, en vigueur depuis hier. Les chiffres actuels laissent penser que ce couvre-feu suffit, a dit aujourd'hui Jean Castex, qui toutefois n'exclut pas un nouveau reconfinement en dernier recours. Stéphane Frangy, vous êtes notre correspondant à Marseille, où un reconfinement, c'est précisément ce que souhaite la première adjointe de Marseille et ancienne maire Michèle Rubirola.
La première adjointe qui ouvre la porte en effet et qui s'interroge, reconfiner et stopper ainsi la circulation du virus, pourquoi pas? Après tout, elle qui ne croit pas au bénéfice d'un couvre-feu anticipé à 18h pour en avoir parlé avec des confrères médecins, mais elle est en désaccord complet avec le maire qui veut à tout prix éviter un nouveau confinement marseillais. La municipalité se désolidarise de Michèle Rubirola sur ce point, mais aujourd'hui, un élu d'opposition LR, Lionel Royer-Perrault, qui est maire d'un secteur justement concerné par le variant britannique, n'exclut pas cette idée.
À partir du moment où vous avez un cluster qui est implanté très vraisemblablement, ça va irriguer. Il faut suivre la vitesse de propagation et s'il s'avère qu'elle devient incontrôlable, je pense que le sujet du confinement ne doit pas être tabou et qu'il faut avoir le courage de le poser, de le dire à la population.
Mais à l'heure où les marins-pompiers et l'IHU du professeur Raoult multiplient tests et analyses pour suivre l'évolution du virus en général et de son variant en particulier, eh bien, la préfecture écarte de son côté l'idée d'un reconfinement pour le moment.
Stéphane Frangy, à Marseille, pour Europe 1, à quel point le variant britannique du Covid a pris racine en France? Quels effets ont eu les fêtes de fin d'année sur la circulation du virus? Doit-on anticiper une explosion de cas? Autant de questions, pour l'heure, sans réponse définitive. Il va falloir encore patienter quelques jours, Mathieu Charrier.
Alors, on a quand même des premiers éléments de réponse. D'abord, les contaminations à Noël, plus 17% par rapport à la semaine précédente. Ça veut dire que les Français ont plutôt bien respecté les gestes barrières. Il n'y a pas eu de flambée des cas. Est-ce de même pour le réveillon de la Saint-Sylvestre? Si on regarde dans les eaux usées, le virus est plus présent que début décembre. Ça donne une tendance, c'est un indicateur. Mais une fois encore, il faut préciser et objectiver cette tendance. En fait, ce qui va compter aussi, ce n'est pas tellement le niveau de contamination au niveau national, mais surtout au niveau local, parce qu'il y a déjà de très fortes disparités selon les régions. Et donc, même si le chiffre des hospitalisations et des admissions en réanimation est stable au niveau national, certains hôpitaux, notamment dans l'Est ou le Sud-Est, sont déjà saturés.
Et concernant le variant anglais, Mathieu, est-ce qu'on sait un peu plus sur son niveau de circulation dans le pays?
Alors oui et non. Oui, parce qu'une grande enquête a été lancée pour séquencer tous les tests PCR suspects sur les journées de jeudi et vendredi dernier dans tout le pays. Les résultats définitifs seront connus en milieu de semaine. Mais hier matin, sur Europe 1, Olivier Véran a expliqué que sur les 1000 premiers résultats, 1% des nouvelles contaminations étaient liées au variant anglais du Covid-19. Vous allez me dire 1%, c'est pas beaucoup. Eh bien, c'est déjà pas mal, puisque si ce chiffre venait à se confirmer, ça augmenterait considérablement notre R0, vous savez, le nombre de personnes que contamine un malade. En ce moment, on oscille autour de 1, ce qui est un résultat plutôt bon. Si on le dépasse largement, ça voudrait dire que les contaminations vont flamber.
Merci Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. Notez qu'en raison de ce variant anglais, les deux Coupes d'Europe de rugby ont été suspendues temporairement. Décision prise à la suite d'un courrier envoyé par le gouvernement dans lequel l'exécutif demande aux clubs professionnels français de reporter leurs rencontres européennes. Côté vaccination, plus de 100 000 Français ont d'ores et déjà été vaccinés, un chiffre toujours très en deçà de nos voisins européens. C'est 6 fois moins qu'en Italie par exemple. Les premiers flacons du vaccin Moderna sont arrivés aujourd'hui en France. 50 000 doses acheminées dans les régions les plus touchées, le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Elles seront injectées dans la semaine. La campagne vaccinale devrait donc s'accélérer théoriquement dans les jours qui viennent. À partir de jeudi, les plus de 75 ans ne résidant pas en EHPAD pourront prendre rendez-vous sur Internet ou par téléphone. L'application Tous Anti-Covid a aussi un temps été évoquée. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée dans la France Bourges et il a révélé que l'application ne permettra pas finalement de prendre rendez-vous, Clément Le Saffre.
Oui, c'était pourtant ce qu'avait annoncé Olivier Véran la semaine dernière à une prise de rendez-vous par téléphone, sur Internet et via Tous Anti-Covid. Mais voilà, l'idée n'aboutira pas comme l'a annoncé Cédrico sur notre antenne.
Vous ne pourrez probablement pas prendre directement rendez-vous dans Tous Anti-Covid pour plein de raisons techniques, mais sera disponible dès jeudi la liste des centres de vaccination à côté de chez vous. Évidemment, il y a une queue, une ordre de priorité, donc vous ne pourrez vous faire vacciner que si vous répondez à cette ordre de priorité.
On aura donc toutes les informations dans l'application pour se faire vacciner, mais ça n'ira pas plus loin pour le rendez-vous. Il faudra passer par Internet ou par téléphone. Par ailleurs, Cédrico a confirmé l'intégration dans Tous Anti-Covid lors de la réouverture des restaurants. On n'a pas encore de date. D'un QR code à scanner à l'entrée. Si un client est testé positif, tous ceux qui étaient dans l'établissement à la même heure que lui seront ainsi averti par une notification, ce sera obligatoire pour pouvoir entrer dans les établissements. Ce système restera quand même doublé par des cahiers de rappel traditionnels pour ceux qui n'ont pas de smartphone.
Clément Le Saffre. Il y a un an, jour pour jour, la Chine annonçait la mort d'une première victime du Covid. Depuis, nos vies ont été bouleversées, confinement, couvre-feu, des restrictions qui touchent particulièrement les étudiants contraints à l'isolement dans des conditions souvent difficiles. Samedi à Lyon, un jeune homme s'est défenestré du 4e étage de sa résidence universitaire. Il est toujours entre la vie et la mort. On ne connaît pas encore les raisons de ce geste, mais ce drame suscite en tout cas beaucoup de réactions sur place, Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, c'est le choc. Les étudiants ont réagi avec beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux. La présidence de l'Université Lyon 3 aussi, elle qui devait annoncer aujourd'hui un plan pour lutter contre la précarité étudiante. Car si l'on ignore encore les raisons précises qui ont poussé le jeune homme à une telle extrémité, tout le monde imagine que la situation très précaire des étudiants en ce moment a joué un rôle avec cette crise du Covid qui empêche les cours en présentiel, qui ne permet pas non plus les petits boulots alimentaires et qui pousse à l'isolement. C'est une période terrible pour les étudiants, estime Eric Carpano, président de l'Université Lyon 3.
Entre 15 et 20% des étudiants se déclarent en difficulté ou en grande difficulté. Ils souffrent de l'isolement, manque de relations sociales, difficulté de suivre les cours en distanciel. Et c'est un vrai problème. C'est une souffrance pour tout le monde. J'ai pas de réponse miracle, malheureusement. Si dans 15 jours, on est de nouveau confiné, on va être confronté de nouveau à cette situation et peut-être pire encore.
Voilà, vous entendez l'impuissance du président de Lyon 3. Alors, des mesures ont été annoncées quand même par le recteur de l'Académie de Lyon, notamment l'embauche de 2 ou 3 assistantes sociales supplémentaires, la mise en place de tuteurs ou d'étudiants référents dans les résidences du Crous. Mais cela apparaît bien dérisoire quand on sait que le campus lyonnais rassemble plus de 200 000 étudiants.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Europe Soir, Julien Pierce.
Depuis la semaine dernière, les représentants des cultes sont auditionnés à l'Assemblée nationale au sujet du projet de loi sur le séparatisme, rebaptisé loi confortant les principes républicains. Après les représentants catholiques, juifs, bouddhistes et orthodoxes, c'était au tour aujourd'hui du président du Conseil français du culte musulman d'être entendu, Aurélie Herbemont.
Oui, alors que ce texte est regardé avec une certaine méfiance par les responsables religieux, le président du Conseil français du culte musulman martèle que la lutte contre la radicalisation est un combat partagé avec le gouvernement, mais il met en garde contre les risques d'amalgame entre islam et extrémisme. Mohamed Moussaoui ne cache d'ailleurs pas ses inquiétudes face aux contrôles administratifs qui vont s'accroître sur les associations cultuelles.
Il y aura un guide de faciès qui va être pratiqué par les fonctionnaires zélés contre des associations, des personnes morales, comme il en existe déjà sur les personnes physiques.
Le président du CFCM salue en revanche des dispositions nécessaires, comme la lutte contre les pratiques dégradantes pour les femmes.
Les mariages forcés, l'excision, les certificats de virginité, pratique prétendument musulmane et qui porte atteinte à la dignité de la femme sont prohibées par l'islam.
Autre sujet abordé par les parlementaires, la formation des imams. Emmanuel Macron souhaite qu'ils soient formés en France pour minimiser les influences étrangères. Le CFCM est d'accord sur le principe. Problème, le projet de charte est enlisé à cause de dissensions au sein de l'institution. Et ce n'est pas à l'Assemblée que ce sujet épineux pourra être réglé.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le texte de ce projet de loi sera débattu par les députés le mois prochain. 2021 est l'année de la réconciliation de tous nos défis écologiques. Voilà les mots d'Emmanuel Macron en ouverture aujourd'hui du One Planet Summit, sommet international pour l'écologie qui doit remobiliser la communauté internationale après une année 2020 catastrophique. Aucun des objectifs fixés pour la décennie écoulée en termes de protection de la biodiversité n'a été atteint. Direction maintenant les États-Unis où les démocrates s'activent pour bouter Donald Trump hors de la Maison-Blanche et surtout l'empêcher de pouvoir y revenir un jour. Ils ont présenté tout à l'heure l'acte d'accusation contre le président sortant. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est donc le début de la procédure d'impeachment, de destitution.
Oui, l'acte d'accusation a été déposé ce matin à la Chambre des représentants. 4 pages dans lesquelles Donald Trump est accusé d'incitation à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Le président a gravement mis en danger la sécurité du pays, de ses institutions et a menacé l'intégrité du système démocratique, dit le texte, qui revient sur le discours de Donald Trump devant ses partisans le 6 janvier. Le président avait répété avoir remporté la présidentielle et déclaré « si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays ». L'acte d'accusation souligne également les tentatives de Donald Trump pour renverser les résultats des élections et cite l'appel au secrétaire d'État de Géorgie pour trouver les milliers de voix manquantes. 2 sanctions sont demandées, la révocation de Donald Trump et la disqualification pour exercer tout futur mandat. La Chambre des représentants va voter cette semaine cet impeachment, mais des questions se posent pour la suite. Le procès au Sénat ne pourra pas se tenir avant le 20 janvier, c'est-à-dire le jour de l'investiture de Joe Biden. Les démocrates pourraient donc ne pas transmettre immédiatement l'acte d'accusation à la Chambre haute pour ne pas paralyser le début de mandat de Joe Biden par le procès de son prédécesseur.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où l'administration Trump, enfin ce qu'il en reste, a décidé de placer Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Washington a également classé comme groupe terroriste les rebelles Houthis au Yémen. Décision vivement critiquée ce soir par l'ONU qui craint de graves répercussions sur l'importation de denrées alimentaires dans ce pays. 14 millions de Yéménites, dont de nombreux enfants, souffrent de la famine depuis le déclenchement du conflit il y a 6 ans. Retour en France où une enquête a été ouverte à Paris après la disparition inquiétante d'une étudiante sénégalaise introuvable depuis une semaine. Diarisso, c'est son nom, 20 ans, est présentée comme une élève brillante en deuxième année de classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Le consulat du Sénégal a publié un avis de disparition avec la photo de la jeune femme et un numéro de téléphone. Thalassa perd son capitaine, Georges Pernoud est décédé hier à l'âge de 73 ans. L'animateur s'était invité tous les vendredis soirs dans le Salon des Français pendant près de 4 décennies pour partager sa passion de la mer sous toutes ses formes. À notre génération aujourd'hui de protéger cette nature qu'il nous a appris à connaître, a tweeté Emmanuel Macron. Écoutez l'hommage que lui rend cette fois le navigateur Loïc Perron.
Il a représenté beaucoup, il a énormément aidé au monde de la mer particulièrement. La voile étant l'une des facettes de la mer, mais il nous en a montré beaucoup plus que ça. Alors il est vrai que Thalassa et la chaîne et François s'étaient un peu spécialisés dans les départs, les arrivées des courses, des transats. La plupart des gens qui nous voyaient dans la rue, qui nous reconnaissaient dans la rue, disaient « Ah, je vous ai vu sur Thalassa ». Il nous a rendu énormément service, amoureux complet de la belle image, bien sûr, des marins et des aventuriers au sens large, parce qu'il s'est spécialisé en producteur, il a beaucoup produit par ailleurs, beaucoup de manières de découvrir la mer au sens large, la pêche, l'économie. Enfin, moi, j'ai trouvé ça toujours fascinant. Et puis, je me souviens très bien qu'on avait fait sa dernière émission ensemble, un hommage à Georges il y a quelques années. Et voilà. Bon, en tout cas, respect à sa famille et puis bon vent. C'est ce qu'il disait, je crois.
Oui, c'est effectivement Loïc Perron, joint par Corinne Boulou sur le Vendée Globe. Le skipper Arnaud Boissière a salué la mémoire de Georges Pernoud en buvant une bière au passage du Cap Horn. Vendée Globe où ça se resserre considérablement en tête de la course. Le leader Yannick Bestaven a vu ce week-end son avance de 700 km fondre comme neige au soleil. Au dernier pointage, ce ne sont plus que 12 petits milles nautiques, soit 23 km qui le séparent de son dauphin Charlie Dalin. Toujours en sport, notez l'abandon aujourd'hui sur le Dakar de Sébastien Loeb, victime de deux crevaisons lors de la 8e étape. Son camion d'assistance n'a pas pu le rejoindre à temps. On passe à la météo. Anissa Haddadi, après le calme de ces derniers jours, retour demain d'un temps plus perturbé.
Oui, on va changer de décor hein, demain, Julien, avec à l'est pour commencer de l'Alsace à la Bourgogne en passant par la Franche-Comté et jusqu'en Vallée du Rhône. Nous aurons de la neige dès 300 mètres d'altitude. Les sols seront blancs, ces chutes de neige vont durer toute la journée, jusqu'à 10 cm de neige attendus demain. En Auvergne, Limousin et jusqu'aux Pyrénées, là aussi la journée commence avec de la neige. Dans le nord-ouest, de la Normandie jusqu'à la Champagne-Ardenne, de la Bretagne au Poitou, le temps est plus doux mais pluvieux toute la journée. Et puis à l'ouest, sur les côtes de la Manche, de l'Atlantique, nous aurons du vent, le vent d'ouest qui se lève et qui souffle assez fort et qui s'engouffre dans les terres puisque le vent va rentrer jusque dans l'est du pays demain après-midi. Dans le sud, toujours le Mistral et la Tramontane qui soufflent demain. Les températures, toujours des gelées matinales, moins 9 à Saint-Girons, moins 7 pour Aurillac, moins 5 à Saint-Étienne, moins 4 pour Clermont-Ferrand, moins 2 à Nîmes et Toulouse, 0 pour Marseille, 5 à Paris et 9 pour Cherbourg. Il fait plus doux dans le nord. Et au meilleur de la journée, le redoux se fait sentir avec 4 à Belfort, 6 pour Strasbourg, 8 à Limoges, 11 à Nice et Paris et 12 pour Rennes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com, suivi de l'interview éco. Twitter chute en bourse après la suspension définitive du compte de Donald Trump. Est-ce que le réseau social a commis là une grave erreur? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h et bientôt 18 minutes sur Europe 1, bienvenue à tous. Et c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Et on en parlait à l'instant, Wall Street commence la semaine en repli avec les GAFA sur fond de polémique autour de la régulation des réseaux sociaux.
Eh oui, l'affaire du compte de Donald Trump fermé par Twitter relance la polémique évidemment sur la régulation de ces mastodontes du secteur Internet. Ce qui pèse sur la tendance à Wall Street, le Dow Jones recule de 0,29%, 31 009 points. Et surtout le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, corrige d'1,25%, 13 036 points. Twitter corrige de 6,4% à la clôture, moins 6,4% à $48,18. Facebook, moins 4%, $256,84. La question d'un démantèlement de ces monopoles revient en force sur le marché et évidemment ça entraîne tous les gros groupes Internet. Apple, moins 2,3%, $128,98, Google, moins 2,3%. Il y a aussi le pétrole qui retombe d'1% ce soir, $52 le baril WTI après son rebond de la semaine passée. Ça n'empêche pas Exxon de monter quand même de 3%, $46,85 à la clôture ce soir. Et puis sur les devises, l'euro revient un cran en arrière, 1,2150 face au dollar.
La bourse de Paris a aussi terminé en baisse, de retour sous les 5700 points sur le CAC 40.
Oui, moins 0,78%, 5662 points. Après un début d'année en hausse de 2,8% la semaine dernière, beaucoup de prudence aujourd'hui face à la situation sanitaire qui tend de nouveau à se dégrader en France. Du coup, les valeurs les plus exposées à la crise sanitaire retombent ce soir. Les pétrolières CGG moins 5%, Vallourec moins 4,5%, Total moins 1,5%. Du côté de la publicité extérieure, JC Deco moins 8%. Et puis le secteur du transport, ADP, Aéroport de Paris, moins 2%. France, moins 1,5%, 4,79 €. L'hôtelier Accor perd 2% ce soir à la clôture.
Exception du jour, les valeurs défensives sont remontées, à commencer par le secteur agroalimentaire.
Oui, comme à chaque remontée des inquiétudes, hein, en particulier sanitaires, eh bien les secteurs défensifs en profitent. Celui de l'agroalimentaire en fait partie, avec de bons chiffres de vente en fin d'année dernière. On a Savencia qui remonte de 2,6%, $62. Danone qui résiste à $52,68. Bell aussi est stable à $312. Les autres places financières sont en baisse, hein, toutes reculent assez nettement. D'ailleurs, le DAX à Francfort, moins 0,8%. Bruxelles, moins 1,3%. Londres, moins 1,1%. Madrid perd 0,6%. Et le CAC 40 donc en baisse de 0,78%, 5662 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain Didier. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Grégory Volokhin.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Mescard Financial Services et vous gérez des fonds, notamment sur les marchés américains. Et on peut le dire, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de ces marchés américains depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Justement, si on a voulu ce soir sur Europe 1 être en ligne avec vous, c'est parce qu'on a voulu parler des conséquences de la décision de Twitter de suspendre de façon définitive le compte de Donald Trump. Et ça s'est vu aujourd'hui notamment en bourse, à l'ouverture, puisque l'action Twitter s'est effondrée. Celle de Facebook également a reculé assez nettement à l'ouverture. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs ont peur de la décision prise par Twitter de suspendre Donald Trump ?
Je dirais simplement que les investisseurs ont peur que le nombre de personnes qui utilisent quotidiennement Twitter ne commence à baisser. Et si c'est le cas, évidemment, ça pourrait avoir des effets négatifs sur la profitabilité d'un Twitter. Mais ça, je dirais, c'est plutôt l'épisode d'une journée. La très grande question est moins là que, dans un sens, est-ce que c'est un grand problème pour Donald Trump lui-même, qu'il soit maintenant exclu de Twitter ? Et à mes yeux aussi, ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi Twitter a censuré définitivement Donald Trump.
Alors justement, pourquoi d'après vous, une entreprise privée comme Twitter a pris cette décision, puisqu'ils en connaissaient sûrement les conséquences?
Je dirais que pour Twitter, ils avaient eu très peur ce printemps. Il faut se souvenir des émeutes de Charlottesville avec le Ku Klux Klan, avec des appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux. C'était surtout sur Facebook à l'époque et ça avait commencé un mouvement dans lequel, tout simplement, des grandes compagnies qui utilisent ces réseaux sociaux pour faire de la publicité avaient suspendu leur publicité sur ces réseaux sociaux. On peut parler de compagnies telles que Unilever, Coca-Cola, Starbucks. Donc, pour un Twitter comme pour un Facebook, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque pour eux est beaucoup plus important de perdre leurs annonceurs, parce que c'est la seule façon dont Twitter gagne de l'argent, c'est avec la publicité, que de devoir juste se séparer d'un Donald Trump.
Donc, ce que vous voulez dire, Grégory Volokhin, c'est que sur le long terme, Twitter, comment on pourrait dire, essaye surtout de sauvegarder son image ?
C'est à mes yeux, oui, son image, la paix à l'intérieur de sa compagnie. Les employés étaient très, très critiques aussi du fait que Twitter était devenu le porte-parole de Trump et de la désinformation de Trump pendant des années. Donc oui, Twitter, il faut dire, c'est assez cynique ce qu'ont fait ces compagnies, que ça soit Twitter, Facebook ou Google. Mais c'est plus par, comme on dit en anglais, self-interest, c'est leurs propres intérêts qui sont en jeu en ce moment. Et en plus, on peut dire vraiment qu'ils essayent de s'acheter la paix avec les démocrates. Il faut savoir qu'ils risqueraient d'y avoir...
Mais c'est-à-dire que si on vous comprend bien, c'est cynique parce qu'ils ont attendu que Donald Trump soit grosso modo à terre pour prendre cette décision, être sûr que ce soit bien Joe Biden et lui envoyer un message en disant « Regardez, on est sympa, il ne va peut-être pas trop falloir nous taxer derrière ». Est-ce qu'on peut le résumer ainsi ?
Vous l'avez très bien résumé, c'est ça à mes yeux. Ce n'est pas un grand débat sur la liberté d'expression. On sait que Twitter, de toute façon... et une compagnie privée. Donc, le débat n'est pas là. Le débat est beaucoup plus important au niveau quel va être, sur ces prochaines années, l'importance de ces réseaux sociaux et est-ce que ces réseaux sociaux peuvent contaminer continuellement la pensée des gens avec la diffusion de ce qu'on appelait les fake news. Mais c'est vrai, en fait, sur Twitter, il y avait beaucoup de fausses nouvelles que les gens prenait au comptant. Donc ça, c'est très important. L'effet sur l'action aujourd'hui n'est pas très important. Et je dirais, en fait, ça a été un calcul relativement cynique de la part de tous ces réseaux sociaux. Et comme vous le dites très justement, Trump, dans une semaine, il ne sera plus là. Donc les réseaux sociaux ne couraient pas beaucoup de risques pour le faire maintenant. Ils ne l'auraient pas fait il y a 4 ans. Ils avaient besoin de Trump pour attirer du monde. Beaucoup moins maintenant.
Oui, puis là, le message aussi est un message envoyé donc à la nouvelle administration américaine, en l'occurrence les démocrates, puisqu'on sait qu'il y a des risques soit de couper Facebook en plusieurs entreprises parce qu'ils sont devenus trop puissants. On sait que ça pourrait également toucher Twitter avec des règles qui pourraient être beaucoup plus dures. Là, finalement, en envoyant ce message, ça veut dire laissez-nous tranquilles, regardez, on sait s'autoréguler.
Oui, parce que ça aurait été justement ce que d'abord les démocrates auraient reprocher au Twitter et au Facebook, c'est vous laisser vraiment un contenu être sur les ondes avec des appels à la violence qui glorifient la haine raciale, etc., etc. Donc, en prenant ces mesures maintenant, d'une certaine façon, je dirais vraiment, non seulement ils s'achètent les bonnes grâces des démocrates, mais il commence d'une certaine façon à négocier directement avec les démocrates pour essayer d'éviter justement cet effort de réglementation qui, de toute façon, leur serait négatif. La réglementation n'est jamais positive dans notre monde capitaliste, je dirais. Elle pourrait être très positive justement pour diminuer peut-être les appels à la haine raciale, mais pour les gros sous de ces compagnies, la réglementation n'est pas positive.
Vu de France et donc vu de loin, on a l'impression que Facebook négocie un poil mieux ce virage. Déjà, eux n'ont pas suspendu pour tout le temps le compte de Donald Trump et surtout, ils essayent, mais il faut dire qu'ils sont tellement attaqués également par les autorités américaines, d'être un petit peu plus transparents. On sait par exemple officiellement le nombre de modérateurs, je crois que c'est 35 000 dans le monde pour Facebook. On ne sait rien pour Twitter. Est-ce que cette affaire montre aussi toute la face cachée, d'une certaine manière, du réseau social Twitter ?
Vous soulignez un point important. C'est vrai que Facebook a une avance très importante sur les autres réseaux sociaux au niveau, justement, du contrôle des messages. Et c'est vrai qu'ils ont des milliers de personnes qui passent leur temps à essayer de ou supprimer ou en tout cas bien encadrer tous les messages qui pourraient être des appels à la violence ou à la haine. Twitter apparaissait pour le moment un peu comme le Wild West, le Far West, où tout était permis. Ils n'avaient pas mis en place ce système d'autorégulation très important qu'avait mis Facebook. Ils vont le faire certainement maintenant. Et c'est peut-être aussi pour ça que les actionnaires de Twitter vendent en disant « bon, ben, Twitter va devoir dépenser beaucoup d'argent justement pour s'autoréguler ».
Merci beaucoup Grégory Volokhin. Je rappelle que vous êtes le président de Mescart Financial Services. Vous gérez des fonds, grand spécialiste de la bourse américaine et vous étiez en ligne avec nous depuis New York. Nous on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, c'était passionnant. Emmanuel que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous parlerez tourisme avec Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage. Restez avec nous, dans un instant on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Ce qui va changer pour le fonds de solidarité, titre Les Échos. L'exécutif va annoncer cette semaine un énième élargissement des conditions à l'attention des grosses structures, des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Ce changement sera marqué par une double innovation avec la possibilité d'avoir une aide proportionnelle aux frais fixes et non plus 20% du chiffre d'affaires comme aujourd'hui. Enfin, le plafond total aux aides reçues pendant la crise va lui aussi être relevé. Il est actuellement de 800 000 euros. Mais les règles européennes permettent d'aller jusqu'à 3 millions d'euros, précisent Les Échos. Islamisme, les enseignants contraints à l'autocensure. C'est le titre à la une du Figaro qui a mené l'enquête. Conclusion du journal, près de 3 mois après l'attentat islamiste qui a coûté la vie à Samuel Paty. Le poison de la peur continue de se diffuser dans les rangs d'enseignants, souvent bien seuls sur le front de la laïcité. Face aux menaces et pressions toujours plus nombreuses, certains professeurs préfèrent se réfugier dans le relativisme culturel plutôt que de prendre le risque d'affirmer les valeurs de la République. Une enquête également à la une de Libération, les hautes protections d'Olivier Duhamel, titre le journal qui révèle, je cite, comment l'universitaire au fait de sa puissance s'était constitué un réseau de connaissances et d'obligés qui, par amitié ou par intérêt, ont choisi de le soutenir malgré ses agissements incestueux. Une révélation étonnante enfin à la une de l'Opinion, le Parti Socialiste pourrait avoir du mal à désigner ses candidats aux élections régionales et départementales, et ce, en raison des restrictions liées à l'épidémie. En effet, les statuts du règlement intérieur sont catégoriques. Le processus de désignation ne peut se faire à distance. Chaque tête de liste à ces scrutins doivent être validées par les militants socialistes de chaque région concernée. Or, ces réunions de vote doivent toutes avoir lieu entre 18h et 22h. C'est impossible aujourd'hui avec le couvre-feu. Et c'est à lire donc demain dans l'Opinion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien Pierce.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Parfaitement.
C'est le début de la semaine, donc nous allons bien, nous sommes en forme pour tous nos auditeurs qui nous suivent tous les soirs.
Et on les remercie d'ailleurs. 39-21, justement pour vous auditeurs, pour appeler la Libre Antenne et témoigner. La Libre Antenne qui débute donc dès maintenant.
Exactement, et on se retrouve dans une demi-heure pour le flash, Julien.
À tout de suite.